Et nous sommes en compagnie de Pamela et Charlotte. Bienvenue à la radio.
Merci. Bonjour.
Vous êtes venus pour présenter, parler de plusieurs choses. Notamment, vous faites partie du collectif Oui Mars. Et donc, à l'antenne, ça s'entend pas bien l'orthographe du collectif qui intègre donc la version néerlandophone, donc avec petit point E, petit point F et Oui Mars, Oui Mars. Ce collectif a été créé l'été dernier, enfin donc cet été qui vient de se passer, et est largement inspiré notamment du mouvement des femmes qui a mené à l'énorme grève du 8 mars en Espagne. Donc Pamela et Charlotte, expliquez-nous un peu comment vous vous êtes inspirées, vous et toutes les autres femmes qui participent à ce collectif, de ce mouvement féministe qui, on se le rappelle, avait mené 6 millions de femmes espagnoles dans les rues le 8 mars et avait ainsi, paralyser le pays, en tout cas arrêter une bonne partie des activités, montrer ainsi la grande importance du travail des femmes, qu'ils soient rémunérés, productifs ou non productifs. Voilà, je vous laisse la parole.
On était surtout un groupe de bruxelloises qui, après le 8 mars, avons vu toutes les images sur la grève espagnole et on s'est dit, waouh, c'est formidable, en fait, on veut faire la même chose ici. Donc, c'est un peu parti sur quelque chose juste comme ça. Et puis, en fait, ça a pris de l'ampleur parce que, donc, par bouche à oreille, on s'est réunis avec d'autres copines féministes et on s'est dit, en fait, on peut vraiment le faire et on a vraiment la motivation et les forces pour. Et donc oui, on s'est constitué fin de l'été, plutôt début de l'été, en juin. Et du coup, on a si vite décidé que nous, on voulait partir sur un processus d'assemblée pour qu'en fait, toutes les femmes qui vivent en Belgique puissent y participer et pouvoir participer à la prise de décision et à la construction de cette grève. Et du coup, on a décidé rapidement qu'on allait appeler une assemblée générale qui a lieu le 7 octobre. Et donc qui a pour objectif en fait vraiment de d'avoir se rencontrer et de voir en fait entre guillemets qui est chaude et sur quelles fosses on dispose et ensemble commencer à lancer un processus pour construire cette grève partout en Belgique.
Et du coup tu viens de dire que vous étiez juste des féministes bruxelloises. Comment vous êtes organisées aussi, parce que vous êtes combien maintenant dans ce collectif? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que c'est mouvant? Est-ce que vous êtes un petit noyau? Comment ça s'est fait aussi? Comment vous avez pris contact peut-être avec tout le reste des collectifs féministes qui existent en Belgique, parce qu'ils sont finalement assez nombreux, peut-être pas encore assez, mais.
Moi je dirais qu'on est une bonne quinzaine en réunion. Après, je pense que sur la mailing, on est une cinquantaine. Donc c'est encore assez petit. Pour l'instant, les réunions, ça consiste plus à faire en sorte que l'AG du 7 octobre ait lieu. Donc on n'a pas des discussions très politiques au final, c'est très organisationnel. Pour ce qui est du contact avec les autres collectifs féministes, c'est en cours. Donc il y a une bonne partie des collectifs qui ont déjà été contactés par mail avec une invitation à participer à cette assemblée. Il y en a encore beaucoup d'autres à contacter parce qu'effectivement, ils sont quand même nombreux, même si on peut se poser la question de assez nombreux ou pas. J'ai oublié ta deuxième question.
Non, c'était ça. Comment vous vous organisez? Où en étaient les contacts? Combien vous étiez? Et donc, comment vous aviez procédé justement pour organiser cette assemblée générale? Si vous aviez déjà organisé ce genre de choses par le passé, quelle était la base aussi pour que vous vous disiez on veut que ce soit participatif et que ce soit
Ben, en tout cas, pour ce qui est de nous deux, c'est dans nos manières de faire. C'est un peu notre école politique, c'est essayer d'avoir des modes d'organisation qui soient le plus participatifs possible. Mais c'était aussi partagé par les autres filles qu'on a pu rencontrer sur l'idée de la grève. Donc ça, c'était assez chouette que c'était un accord un peu dès le départ. On s'est pas dit on va faire des espèces de bureaux, je sais pas quoi. Pour ce qui est d'organiser des assemblées, ça a déjà été fait. On avait notamment avec Charlotte et d'autres groupes politiques de nouveau sur Bruxelles, on avait organisé les assemblées pour le 8 mars 2017. Oui, c'est ça, 2017.
Et 2016.
Et 2016 aussi, oui. Mais 2016, on n'organisait pas les assemblées, c'était base de réunions un minimum assez informelles, en fait. Mais non, en 2017, on a procédé avec quatre assemblées auxquelles on avait convié les meufs motivées qu'on avait réussi à joindre. Donc c'était les assemblées publiques, mais bon, après ça reste dans un certain milieu. Ça on avait réussi à organiser le 8 mars 2017 avec des assemblées, donc moi je suis assez confiante. Après c'est pas du tout la même ampleur à quoi on s'attend cette année, c'est quelque chose de plus gros quoi, et donc heureusement on est plus nombreuses pour organiser ça, mais je pense que ça reste quand même un challenge quoi, un défi pardon.
Et l'objectif c'est aussi de sortir de Bruxelles. Parce que bon, j'ai dit qu'on était beaucoup des Bruxelloises, mais c'est pas notre objectif en soi de n'être que des Bruxelloises. Et donc on a déjà dans notre collectif, on essaye pas que des francophones, mais aussi en fait des filles qui vivent en Wallonie, par exemple. Et donc l'objectif c'est vraiment d'ouvrir notre couverture et un peu sortir de Bruxelles. Et d'ailleurs dans ce cadre-là, on a été à Esperanza, donc c'est un festival qui se tient à l'abbaye de Floreffe près de Namur début août, où on a fait un stand où on a fait du coup beaucoup de publicité pour beaucoup de mobilisation pour cette assemblée du 7 octobre. On a eu énormément de contacts et justement des filles qui viennent pas forcément de Bruxelles. Ça a aussi été l'occasion de rencontrer beaucoup de filles qui travaillent dans des assos ou des orgas. Et du coup, on avait eu beaucoup de contacts et surtout beaucoup de retours positifs. Enfin, on avait vraiment été frappés parce que s'afficher féministe sur un festival, c'est pas toujours ce qu'on pense le plus évident, et pourtant, ça s'était très bien passé.
Et justement, au dernier festival Esperanza, il y avait la thématique générale était justement, je sais plus comment ils avaient intitulé ça, mais c'était
la fin de l'empire du mal, avec un accent circonflexe sur le mal.
Et du coup, il y avait toute une série d'activités qui étaient menées par rapport au genre. Et pour revenir à la grève du 8 mars en Espagne, le mot d'ordre là, enfin le discours qui était porté était quand même assez anticapitaliste, on va dire, était fort de gauche, à la limite même plus à gauche que des partis de gauche et que les syndicats. Et donc, quand on parle de grève, l'image qui nous vient en tête, c'est les syndicats. Quel est aussi le lien qu'il peut y avoir entre une grève des femmes et la grève des travailleurs? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que c'est justement l'ordre du jour de la prochaine, de l'Assemblée, justement, de pouvoir se dire comment, en tant que femme, on se réapproprie ce mode d'action aussi qui est traditionnellement lié à plutôt une grosse machine syndicale, à des travailleurs, et donc comment on renverse peut-être le rapport genré aussi du gréviste homme.
Du coup, c'est une longue question hein, et j'ai l'impression qu'il y a plein de sous-questions. Mais d'abord, pourquoi faire grève en tant que femme, mais c'est aussi en tant que femme travailleuse? Et je crois que tu en as parlé au début, tu parlais de tout le travail que font les femmes. L'idée, la grève, c'est quand même un outil assez formidable pour mettre en lumière tout le travail que font les femmes, et notamment celui qui n'est pas rémunéré et donc qui n'est pas considéré toujours comme du travail, donc le travail domestique, le travail de prendre soin des gens. Et donc, en fait, l'idée, c'est que factuellement, quand en fait, les femmes vont arrêter de travailler, a priori, on va quand même rapidement voir tout ce qu'elles font, et donc tout ce qui est perturbé et tout ce qui ne fonctionne pas dans la société quand elles ne travaillent pas. Et donc, pour ça, la grève, c'est vraiment un outil formidable. Du coup, quel lien avec les syndicats? Nous, on est convaincus qu'il va falloir, qu'il faut travailler avec les syndicats. Parce que, enfin, parce que ouais, c'est des composantes hyper importantes dans le milieu du travail, et c'est aussi des réseaux, c'est aussi des soutiens dont on a besoin. Et je crois que ces dernières années, les syndicats ont eu tendance à de plus en plus travailler sur la question des femmes, de leur discrimination au travail, mais aussi du coup de tout ce qu'on appelle le travail gratuit qu'elles font et qui ne sont pas rémunérés. Et donc je pense que dans cette lancée-là, ça pourrait aussi eux les intéresser de travailler là-dessus. Voilà. Pamela, je sais pas si tu veux me compléter ou...
Non, je trouvais ça plutôt complet en fait.
Ok, et je sais pas s'il y avait d'autres sous-questions.
Non, c'était juste comment en tant que féministe on peut utiliser ce mode d'action de la grève. Je pense qu'il y a aussi un historique, mm-hmm. aussi, c'est pas complètement inédit de... Et justement, quel impact peut avoir le fait de faire grève alors qu'on est en dehors du milieu du travail pour toute une série d'activités ? Et le lien, justement, l'impact que peut avoir le fait d'arrêter de s'occuper des enfants, de s'occuper des personnes...
Mais là-dessus, moi, je pense que c'est quand même important de rappeler qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont des travailleuses, au sens de travail reconnu et rémunéré. Donc, en fait, la grève des travailleurs, c'est aussi, il y a souvent des grèves de travailleuses. Et puis, des grèves de femmes exclusivement, il y en a déjà eu. Donc, je pense que l'image qu'on a du gréviste mâle est effectivement très forte, mais ils sont pas tout seuls. Et du coup, je pense que une grève des femmes le 8 mars, ce sera pas uniquement une grève des femmes en tant que femmes qui réalisent au quotidien un travail invisible. C'est aussi une grève de toutes les travailleuses dans la part de leur travail qui est reconnue, quoi.
Ok. Je propose, vous avez amené plein de musique, en fait. Je propose comme ça au hasard, pour commencer, d'écouter. Anna Tijoux, c'est anti-patriarcat, c'est ça.
C'est ça.
On écoute ça et on revient par la suite.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Voilà, donc c'était Anna Tijoux et Antipatriarcat. Et on est toujours en compagnie de Pamela et Charlotte du collectif 8 mars. Et... voilà, non, il y a, semble-t-il, un mauvais contact dans les casques de, du studio. Pamela et Charlotte, vous êtes toujours là. Donc, on a évoqué la multitude justement des groupes féministes en Belgique, que ce soit du côté néerlandophone ou francophone, à Bruxelles et en région. Et ici, vous, vous venez plutôt, enfin, vous êtes toujours étudiante, plutôt à l'ULB, si j'ai bien compris. Comment se porte la réflexion féministe en milieu étudiant? Justement, est-ce que c'est quelque chose qui passe facilement? Est-ce que vous, quand vous en parlez, vous êtes confronté à des remarques sexistes? Enfin, notamment, on entend régulièrement, que ce soit en France ou ailleurs, justement, des affiches qui sont profondément sexistes, ce genre de choses. Donc, qu'en est-il dans votre vécu?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de tout à l'ULB. Donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui ont le temps de s'intéresser à ces questions-là, les moyens aussi d'y intéresser et qui le font. Donc, avec ceux-là, on peut discuter. Avec les gens qui n'y connaissent rien, il y a aussi moyen de discuter. Et là, il y a deux attitudes, quoi. Il y a les gens relativement... aux curieux ou ouverts qui vont un peu écouter ce qu'on a à dire, poser des questions, amener leurs propres réflexions. Et puis bon, il y a ceux qui se braquent un peu, qui ont du mal à entendre quelque chose qu'on n'entend pas tout le temps et qui va pas dans le sens de ce qu'on leur dit depuis toujours. Et alors, il y a aussi les gens qui sont résolument contre tout ce qui touche de près ou de loin à ce qu'ils appellent le féminisme, quoi, donc ce qu'ils considèrent comme être féministe. Et donc, il y a un peu de tout. Après, niveau, par exemple, quand il y a des conférences qui sont organisées sur le campus, que ce soit des conférences institutionnelles des autorités ou des initiatives de cercles ou de groupes politiques, en général, il y a quand même du monde sur ces questions-là. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais bon, effectivement, sur des groupes Facebook et ce genre de choses, quand il y a des réactions face à, je sais pas moi, des affiches sexistes ou des choses comme ça, il y a parfois des réactions très très violentes de gens qui défendent coûte que coûte le droit à, je sais pas, enfin, objectiver un corps de femme sur une affiche pour le faire, je sais pas pourquoi. Mais voilà quoi, pour moi il y a un peu de tout, mais peut-être que ça avance, je sais pas. Je pense pas qu'on ait une perspective qui soit suffisamment sur le long terme pour...
Mais je trouve quand même que depuis 2-3 ans, on voit quand même émerger pas mal d'initiatives institutionnelles, plutôt sur les questions des violences et les questions du harcèlement. C'est les deux grands thèmes. À l'ULB, il y a eu des campagnes d'affichage qui mettaient en scène des phrases sexistes qu'on pouvait dire à une étudiante, une doctorante, etc. Il y a quand même eu... Il y a eu beaucoup de discussions l'année passée autour d'une chanson chantée dans un festival, la chanson estudiantine, où il y avait quand même pas mal d'acteurs qui s'étaient réunis pour dénoncer cette chanson, chose qu'on n'aurait jamais vue il y a 4 ou 5 ans. Et les affiches, par exemple, des cercles étudiants, franchement, ça va beaucoup mieux que depuis 4 ans. Alors, ils ne diront jamais que c'est grâce au cercle féministe, mais bon, il y a 4 ou 5 ans, il avait quand même beaucoup tapé du poing. Par contre, il y a des thèmes qui, c'est le néant absolu. Par exemple, les questions de précarité étudiante. Par exemple, l'année passée, je crois que c'était en septembre ou en octobre, il y a eu une pub sur le campus de la pub pour des sugar daddy. Donc, c'est des femmes des étudiantes femmes qui se prostituent pour payer leurs études. Enfin, en tout cas.
C'était heureusement pas sur le campus.
Ah oui, c'était à côté du campus, non?
Oui, c'était ce camion qui était passé avec la pub.
Et du coup, là, on a quand même vu qu'il n'y avait pas un enthousiasme délirant pour réfléchir à ces questions et pour répondre à la précarité étudiante qui est de plus en plus massive et de plus en plus nombreuse. Donc, Oui, bah du coup il y a des thèmes qui ça avance, je pense. Après il y en a d'autres beaucoup moins et bah parfois c'est intéressant de se demander pourquoi certains pas d'autres.
Et justement tout à l'heure on évoquait le fait que un des mots d'ordre en tout cas des grèves féministes de la grève féministe en Espagne était cette question du rapport au capitalisme et du fait que capitalisme et patriarcat s'entretenaient l'un l'autre. Est-ce que justement cette question de la précarité étudiante, elle est liée à un système capitaliste aussi? Est-ce que la difficulté à aborder cette question-là n'est pas due aussi au fait que ça remet en question justement la question de la précarité étudiante dans un premier lieu, mais aussi la question justement de la précarité des femmes globalement, du fait que leurs salaires sont moins élevés, enfin tous ces aspects-là des impacts du capitalisme sur les femmes et sur le renforcement d'un système patriarcal et de domination.
Mais la question de la précarité des femmes ou la précarité des étudiantes en particulier est effectivement complètement reliée à la question du capitalisme. Après, du coup, moi je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus facile de traiter la question du féminisme et des injustices envers les femmes en faisant abstraction de tout ce qui peut se recouper avec des inégalités socio-économiques. Et donc c'est bien pour, enfin moi je pense que c'est aussi pour ça que
pour nous,
le féminisme,
enfin précise que c'est pas facile pour nous, c'est
de manière générale, oui, pardon.
Oui, pour la société, le pouvoir politique.
Pardon si c'était pas clair. Non, et du coup, je pense que c'est aussi beaucoup plus facile, de manière générale, donc, de s'intéresser à et de porter un féminisme libéral où, en fait, je vais pas trop dire une phrase qui.
Ouais, quand on veut, on peut.
Ouais, voilà, genre là, ouais, c'est ça.
On peut toutes devenir des CEO. Il faut trouver juste cette force-là en nous. Et quand on travaille dur, on y arrive. Enfin, voilà. Et les femmes aussi.
Et justement, tout ce féminisme qui parle du plafond de verre, comme si c'était le seul objectif des femmes de pouvoir devenir chef d'entreprise ou d'être dans le CA d'une entreprise du CAC 40, alors que c'est aussi... Enfin, il y a le plancher collant, mais il y a aussi tout le reste du système patriarcal et capitaliste qui s'entremêle.
Ouais, on t'entend plus très bien dans le casque.
On m'entend plus.
Voilà, ouais. Là c'est mieux. Enfin, ouais. Et on s'entend pas nous beaucoup. Je pense.
Je vais remettre le casque. Et là, ça va mieux.
Ça va mieux. Ça grésille un peu, mais ça va mieux.
Oui. Donc, que disions-nous ?
On parle de femmes chefs d'entreprise.
Oui, c'est ça.
Qui ne sont pas, enfin, l'apanage.